Chapitre 4. Le joueur de flûte. 1.
Nous sommes un quatette, dit le pistolero. Nous sommes un seul en plusieurs, la multiplicité fait unité.
Il perçut le regard dubitatif de Callahan, impossible à rater, et hocha la tête.
Oui, père, vous êtes l'un des nôtres. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je sais que c'est ainsi. Et mes amis aussi.
Jake opina du chef, de même qu'Eddie et Susanna. Ils se trouvaient dans le pavillon. Après avoir entendu l'histoire de Jake, Roland ne voulait plus qu'il se rencontre au presbytère, pas même dans l'arrière-cour. Il pensait fort probable que Slightman ou Andy, peut-être un autre ami des loups qu'il n'avait pas encore démasqué, et placer des micros là-bas, ainsi que des caméras. Le ciel était gris, il menaçait de pleuvoir, mais l'air restait remarquablement doux, si tard dans la saison. Des messieurs ou des dames bien intentionnées avaient ramassé les feuilles mortes, laissant un large cercle autour de la scène sur laquelle Roland et ses amis s'étaient présentés à la communauté il n'y avait pas si longtemps, et l'herbe en dessous était aussi verte qu'en plein été. On voyait des falcons faire voler des cerfs-volants, des couples se promenant main dans la main, deux ou trois vendeurs ambulants gardant un œil sur d'éventuels clients, et l'autre sur les nuages ventrus au-dessus de leur tête. Dans le kiosque à musique, le groupe de musiciens qui les avait accueillis à Calabrian Sturges avec tant de brio s'entraînait à jouer quelques airs nouveaux. À deux ou trois occasions, des habitants de la ville s'étaient approchés de Roland et de ses amis pour passer un peu de temps avec eux, et à chaque fois, Roland avait secoué la tête, sans sourire, ce qui les avait très rapidement découragés. Le temps des « que je suis content de vous voir » était fini. Ils en étaient presque arrivés à ce que Susanna appelait les choses sérieuses. « Dans 4 jours aura lieu la réunion, » dit Roland. « Cette fois-ci, je pense convoquer toute la ville, pas seulement les hommes. »
« Tu ferais bien de compter sur toute la ville, » répliqua Susanna. « Si tu comptes sur ces dames pour lancer le plat et compenser le manque de fusils, je ne pense pas que ce soit trop demandé que de les laisser entrer dans cette foutue salle. »«
La réunion ne se tiendra pas dans la salle du conseil s'il doit y avoir tout le monde, » objecta Callahan. « Il n'y aura pas assez de place. On allumera des flambeaux et on se réunira ici même. »
Et s'il pleut ? Demanda Eddie.
Eh bien, s'il pleut, les gens seront mouillés, dit Callahan en haussant les épaules.
4 jours avant la réunion et 9 avant l'arrivée des loups, récapitula Roland. C'est très certainement notre dernière occasion de palabrer comme nous le faisons, assis, la tête froide, jusqu'à ce que tout soit fini. Nous n'avons pas beaucoup de temps, aussi faut-il le mettre à profit. Il tendit les mains. Jake en prit une, Susanna l'autre. Ils furent bientôt réunis en un petit cercle, tous les 5, main dans la main.
« Est-ce que tout le monde peut se voir ?»«
Je te vois très bien, »
dit Jake.
« Très bien, Roland, »
renchérit Eddie.
« Clair comme de l'eau de roche, trésor, » ajouta Susanna, le sourire aux lèvres.
Otté, qui reniflait l'herbe alentour, ne dit rien, mais il eut l'air de leur faire un clin d'œil.
« Père ? » demanda Roland.
« Je vous vois et vous entends très bien, » acquiesça Callahan avec un petit sourire. « Et je suis heureux d'être de la partie. Jusqu'ici, du moins. »
2. Roland, Eddie et Susanna avaient entendu la majeure partie du récit de Jake. Jake et Susanna avaient entendu ceux de Roland et d'Eddie. Callahan eut donc un résumé du tout, ce qu'il devait appeler ensuite la double intrigue. Il écouta, les yeux écarquillés et bouche bée, pendant les 3/4 du temps.
Il se signa lorsque Jake parla du placard où il s'était caché. À Eddie, le père demanda
« Vous n'étiez pas sérieux quand vous parliez de tuer des femmes et des enfants, bien sûr. C'était seulement du bluff. »
Eddie leva les yeux vers le ciel chargé, un léger sourire sur les lèvres, puis il reporta son regard sur Callahan.
Roland m'a dit que, pour un homme qui ne veut pas qu'on l'appelle paternel, vous avez fait preuve d'attention très paternelle ces derniers temps.
Si vous voulez parler du fait d'interrompre la grossesse de votre femme, Eddie leva la main.
Disons que je ne parle de rien en particulier. Je dis seulement qu'on a un travail à faire ici et qu'on a besoin de votre aide.
Et la dernière chose qui pourrait nous aider, c'est de nous faire court-circuiter par un excès de vieux blablabla catholique. Alors disons juste que, oui, c'était du bluff, et passons à autre chose. Ça vous va, mon père ?
Le sourire d'Eddie était à présent chargé de tension et d'exaspération. La couleur lui était montée aux joues en deux taches bien distinctes sur les pommettes. Callahan le considéra avec beaucoup de précaution, puis hocha la tête.
« Ouais, c'était du bluff. Quoi qu'il en soit, restons-en là et passons à autre chose. »«
Bien, » fit Eddie, puis il se tourna vers Roland. « La première question est pour Susanna, » dit ce dernier. « Et elle est très simple. Comment te sens-tu ? » ?»«
Très bien, »
répondit-elle.
« Vrai ?»
dit. Elle acquiesça.
« Je dis vrai, grand merci. »
« Pas de migraine, pas de douleur ici ?» demanda Roland en se frottant la tempe gauche.
« Non, et ces excès de nervosité que j'avais parfois, juste après le coucher du soleil ou à l'aube, ont disparu. »«
Et regardez-moi !» Elle passa la main sur sa poitrine, sa taille et sa hanche droite.
« J'ai même perdu un peu de poids. »
Roland, j'ai entendu dire que parfois les animaux à l'état sauvage, les chats sauvages ou les herbivores tels que les daims ou les lapins, absorbent leurs embryons si les conditions pour mettre bas sont hostiles.
Tu ne crois pas qu'elle ne finit pas sa phrase mais lui lança un regard plein d'espoir.
Roland regrettait de ne pouvoir entretenir cette charmante illusion. Et cacher la vérité au cas-tête n'était plus possible. Il secoua la tête. Le visage de Susanna se teinta de désespoir.
« Elle dort très calmement, est-ce que je peux en voir ?» ajouta Eddie. « Aucun signe de Mia. »
« Rosalita dit la même chose, » ajouta Callahan.
« Tu me fais surveiller par cette poulette ?»
lança Susanna de sa voix suspicieuse à la dette.
Mais elle souriait.
De temps à autre, admit Callahan.
Laissons là le sujet du petit gars de Susanna, si c'est possible, proposa Roland. Il faut que nous discutions des loups. Deux, et surtout deux.
Mais Roland, commença Eddie.
Roland leva la main.
Je sais qu'il y a bien d'autres questions. Je sais combien elles sont urgentes. Je sais aussi que, si nous nous laissons distraire, nous risquons de tous mourir à Calabrian Sturgis, et des pistoleros morts ne sont d'aucun secours à personne. Et ils ne poursuivent pas leur route. Nous sommes d'accord ?
Du regard, il balaya leur petit groupe. Personne ne répondit. Au loin, on entendait des enfants chanter. C'était un son fort, plein de gaieté et d'innocence. Ça parlait de Komala.
Il y a pourtant un autre sujet qu'il nous faut aborder.
Et il vous concerne, père, dit Roland.
Vous et cet endroit qu'on appelle maintenant la grotte de la porte. Seriez-vous prêt à passer cette porte et à retourner dans votre pays ?
Vous plaisantez,
demanda Callahan, les yeux brillants. Une occasion d'y retourner, même très peu de temps, quand vous voudrez.
Roland hocha la tête. Plus tard dans la journée, vous et moi nous offrirons peut-être un petit passéard dans le coin et je vous ferai passer la porte. Vous savez où se trouve le terrain vague, n'est-ce pas?
Bien sûr, j'ai dû passer devant un bon millier de fois dans mon autre vie.
Et vous avez compris cette histoire de code postal? Demanda Eddie.
Si M. Tower a fait ce que vous lui avez demandé, il sera écrit au bout de la palissade du côté de la 46e rue. Très bonne idée, au fait.
Vous relevez le chiffre et la date du jour aussi, dit Roland. Il faut qu'on garde la notion du temps là-bas. Eddie a raison. Rapportez-nous tout ça. Puis, après la réunion au pavillon, il faudra que vous repassiez la porte.
Mais cette fois, pour aller là où Tower et Dipno se seront réfugiés en Nouvelle-Angleterre, suggéra Callahan.
Oui, fit Brant. Si vous les trouvez, c'est surtout à M. Dipno qu'il faudra vous adresser, dit Jake.
Quand tous les regards se tournèrent vers lui, il rougit violemment, mais il garda les yeux fixés sur ceux de Callahan.
« Monsieur Tower se montrera peut-être borné. »«
C'est l'euphémisme du siècle, » lança Eddie.
« Le temps que vous arriviez là-bas, il aura déniché 12 libraires d'occasion et Dieu sait combien de premières éditions de la 19e dépression nerveuse d'Indiana Jones. »«
Mais Monsieur Dipno écoutera, lui, »
poursuivit Jake.
« Coute à qui ?» fit Otte en roulant sur le dos. « Coute et tais-toi !»
Tout en gratouillant le ventre d'Otte, Jake dit
« Si quelqu'un peut convaincre M. Tower de faire quelque chose, c'est bien M. Dipno. »
« D'accord, » répondit Callahan en hochant la tête. « Je vous entends bien. »
Les enfants qui chantaient s'étaient rapprochés. Susanna tourna la tête, mais elle ne pouvait encore les apercevoir. Ils devaient être en train de remonter la rue du fleuve. Dans ce cas, ils seraient visibles dès qu'ils auraient dépassé les tables et tourné dans la grand-rue au coin de l'épicerie générale Took. Certains des Focken qui se tenaient sous le porche se levaient déjà pour les regarder arriver. Pendant ce temps, Roland observait Eddie avec un petit sourire. « Tu m'as dit une fois un jeu de mots de chez toi sur les compositions. J'aimerais bien l'entendre une nouvelle fois, si tu t'en souviens. »
Un grand sourire se dessina sur les lèvres d'Eddie.
Mieux vaut avoir un 10 à sa composition qu'un con à sa disposition. C'est celui dont tu voulais parler.
Roland acquiesça.
C'est un bon dicton.
Eh bien, au risque de me mettre à ta disposition, je vais affirmer haut et fort ma conviction. Et c'est là-dessus que reposeront tous nos espoirs de nous en sortir vivants. Je n'aime pas ça, mais je n'ai pas le choix. Ce que j'affirme, c'est que Ben Slightman et Andy travaillent contre nous, et que si nous les neutralisons en temps voulu, nous pouvons agir dans le secret.
« Ne le tuez pas !»
dit Jake à voix si basse qu'elle était à peine audible. Il avait rapproché Otte de lui et lui caressait la tête et le cou avec une sorte de rapidité compulsive. Otte le supportait avec patience.
« J'implore ton pardon, Jake, » dit Susanna en se penchant en avant et en se mettant la main derrière l'oreille. « Je n'ai pas... Ne le tuez pas !» Cette fois, sa voix était enrouée, tremblante et chargée de sanglots. « Ne tuez pas le pas de Benny, je vous en prie !»
Eddie tendit la main et la posa doucement sur la nuque du garçon. « Jake, le pas de Benny Slightman veut envoyer une centaine d'enfants à tonne foudre avec les loups, juste pour épargner le sien. Et tu sais comment ils en reviendraient. »«
Ouais, mais à ses yeux, il n'a pas d'autre choix, parce que... »«
Son choix serait pu être de se rallier à nous, » objecta Roland d'une voix morose et redoutable. « presque morte.
Mais...
Mais quoi ? Jack n'en savait rien. Il avait tourné et retourné ça dans sa tête, mais n'en savait toujours rien. Des larmes se mirent soudain à jaillir de ses yeux et roulèrent sur ses joues. Callahan tendit la main vers lui, Jack la repoussa. Roland soupira. Nous ferons de notre mieux pour l'épargner, c'est tout ce que je peux te promettre. Je ne sais pas si ce sera un bien ou pas. Les Slightman seront finis dans cette ville, s'il reste une ville, à la fin de la semaine prochaine. Mais peut-être iront-ils au nord ou au sud le long du croissant pour recommencer une nouvelle vie. Et Jack, écoute. Ben Slightman n'aura pas à savoir que tu as surpris son père et Andy la nuit dernière. Jack le regardait avec une expression qui n'osait pas pencher du côté de l'espoir. Il se fichait bien de Ben Slightman l'aîné, comme Nathan Fayou, mais il ne voulait pas que Benny sache que c'était lui. Il jugeait que ça faisait de lui un lâche, mais il ne voulait pas que Benny sache.
Vraiment ? C'est sûr ?
Il n'y a rien de sûr dans tout ça, mais avant qu'il ait pu finir, les enfants tournèrent au coin de la rue. En tête, ses membres argentés et son torse doré scintillant d'un éclat doux sous la lumière déclinante, venait Andy, le robot messager. Il marchait à reculons. Il tenait dans une main un babolt enveloppé d'une bannière de soie chatoyante. Susanna lui trouva des airs de maréchal en plein défilé de fête nationale. Il secouait son bâton de droite à gauche avec emphase, rythmant le chant des enfants, accompagné par la mélodie aiguë d'une cornemuse qui sortait des haut-parleurs situés dans son torse et dans sa tête.
« Nom de Dieu, » fit Eddie, « c'est le joueur de flûte de Hamel. »
3. « Comme à la Horis, maman a eu un fils. C'est le moment où papa s'est le plus amusé, je crois. » Après avoir chanté ce couplet tout seul, Andy pointa son bâton vers la foule des enfants. Un cœur turbulent lui répondit «
Comme malade, soin de soin, papa, on a eu un, c'est le moment où maman s'est le plus amusé vraiment. »
Puis éclatèrent des rires de jubilation. Il n'y avait pas autant d'enfants que Susanna l'aurait cru, vu le bruit qu'il faisait. Les voir ainsi suivre Andy après ce que venait de leur raconter Jack lui déchira le cœur. Au même moment, il sentit une pulsation de colère battre dans sa gorge et à sa tempe gauche. Le voir leur faire descendre la grand-rue comme ça. Comme le joueur de flûte, Eddie avait raison. Comme le joueur de flûte de Hamel. À présent, il pointait sa baguette improvisée vers une jolie fille d'environ 13 ou 14 ans. Susanna crut reconnaître une des enfants Anselme de la petite ferme juste au sud de chez Tian Jaffords. Elle récita le couplet suivant d'une voix haute et claire, sur ce même rythme lourd qui était presque, mais pas tout à fait, un chant pour sauter à la corde.
« Comme à la, une, deux, vous savez quoi faire, parbleu, plantez le riz comme à la, ne faites donc pas les fadas !»
Puis, tandis que les autres se joignaient à nouveau au refrain, Susanna se rendit compte que le groupe d'enfants était plus important qu'elle ne l'avait cru en les voyant débouler au coin de la rue. Ses oreilles avaient été plus fidèles que ses yeux. Et la raison en était très claire.
« Comme à la 203, » chantait-il, « papa a pas fait le fada, maman plante comme à la, parce qu'elle sait quoi faire, voilà !»
Le groupe paraissait plus réduit parce que certains visages se ressemblaient trait pour trait. Le visage de la fille Anselme, par exemple, était quasiment identique à celui du garçon qui se tenait à ses côtés, son frère jumeau. Presque tous les enfants du groupe d'Andy étaient des jumeaux. Susanna se rendit soudain compte de la bizarrerie de la situation, comme si elle résumait tous ces dédoublements auxquels ils avaient été confrontés. Son estomac fit la pirouette, et elle ressentit le premier pincement de douleur au-dessus de son œil gauche. Elle fut sur le point de porter la main au point sensible. « Non !» se dit-elle. « Je ne sens rien !» Elle se força à reposer sa main. Elle n'avait aucun besoin de se frotter le front. Pas besoin de frotter ce qui ne faisait pas mal. Andy pointa sa baguette vers un petit garçon grassouillet qui se pavanait et qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il chanta le couplet suivant d'une voix de soprano, claire et enfantine, qui fit rire les autres enfants.
« Comme à la jamais 203, vous savez ce qu'il en sera. Plantez le riz comme à la, et c'est le riz qui vous libérera. »
Ce à quoi le cœur répondit.
« Comme à la jamais 203, c'est le riz qui vous libérera. Quand vous plantez le riz comme à la, vous savez ce qu'il en sera. »
Andy aperçut le cas-tête de Roland et leur adressa un signe joyeux de son bâton. Imité par les enfants, dont la moitié reviendrait complètement décérébrée et crânée du défilé, si ce gentil maréchal parvenait à ses fins. Il deviendrait aussi grand que des géants, en hurlant de douleur. Puis il mourrait jeune. « Faites-leur signe !» dit Roland en levant le bras. « Faites-leur signe, tous, au nom de vos pères !» Eddie lança à Andy un grand sourire, dévoilant toutes ses dents.
Comment ça va, espèce de vieille merde de transistor sur pattes ?
Demanda-t-il entre ses dents d'une voix rauque et féroce, tout en levant les 2 pouces à l'intention du robot.
Comment ça va, espèce de taré en ferblon ? Bien, grand merci ! Viens là pour voir !
Jake éclata de rire. Ils continuèrent tous à saluer et à sourire. Les enfants répondirent, ainsi qu'Andy. Il mena sa joyeuse bande jusqu'en bas de la grand-rue en clamant
« Comme à la 3-4, le fleuve nous rattrape !»«
Il l'adore !»
fit Callahan avec une étrange expression de dégoût sur le visage.
« Des générations d'enfants ont adoré Andy. »
Voilà une chose qui est sur le point de changer, conclut Roland.